Nous avons vu depuis début de l'année, nous avons parlé de la réforme de Josias et qui allait bien dans le sens de ce que nous étions en train de vivre. On a parlé aussi de l'esprit de Caleb la dernière fois, qui est le nom de la nouvelle association qui va gérer l'ex-discothèque, tout le bâtiment à côté, restaurant, etc. Et donc on a vu que derrière il y avait un état d'esprit, c'était celui de Caleb. Je crois que c'est vraiment Dieu qui nous donne ces choses-là. Et puis j'aimerais maintenant rebondir sur la dernière partie de vendredi soir. Et effectivement, Huguette l'a dit, il y a un moment, j'ai vraiment eu à cœur de lire et de chanter ce texte d'Ézéchiel 16 qui nous parle d'une princesse qui est une figure d'Israël, de la nation d'Israël. Et cette princesse, il nous est dit qu'au départ, elle a été comme un nouveau-né, si vous voulez, qui a été jeté dans un champ. Alors, vous savez qu'à l'époque du temps d'Israël, quand même avant, tous les pays alentours, quand ils ne voulaient pas d'un enfant, on le jetait dans un champ. C'était l'avortement à l'époque, si vous voulez. On le jetait et donc il mourait. Et donc, il est dit que cette nation d'Israël, cette jeune fille, a été au début jetée dans un champ. Et ça va nous rappeler aussi Esther, le livre d'Esther. Esther qui était une orpheline. Donc abandonnée non pas volontairement cette fois-ci, mais quand même, elle n'avait plus de parents, Esther. On va voir, je vais faire rejoindre toutes ces histoires. Et ça nous parle de nous aussi. Parce que nous, la Bible dit qu'il y a un moment dans notre vie, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions, les promesses n'étaient pas pour nous, voyez. Nous étions à côté, nous étions en dehors de sa maison. Donc ça, c'est des choses à voir ensemble. Et le livre d'Ézéchiel 16 nous dit qu'encore cette jeune fille, elle était nue, complètement nue, quand Dieu l'a trouvée. La nudité dans la Bible nous parle de la honte. La nudité, c'est quand il n'y a pas d'avenir, quand il n'y a plus rien. On se sent misérable, nu. Et ça, c'est la vie sans Dieu. Ça, c'est la vie sans cette alliance avec Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il a dit dans Ézéchiel 16, il a dit, c'est ce qu'on a lu vendredi, il a étendu son manteau sur cette jeune fille. Et ça, c'est une figure biblique de l'Alliance. On voit ceux qui connaissent l'histoire de Ruth et de Boaz, elle s'est couchée vers Boaz et il est dit que textuellement, c'est Ruth, chapitre 3, verset 9, elle lui dit « Veuille me prendre sous ta protection ». Littéralement, le texte hébreu nous dit « Étends sur moi le pan de ton manteau ». Et en fait, dans la Bible, étendre le pan de son manteau et puis étendre sa protection, c'est la même chose, c'est le même terme. Et donc, nous avons ici une alliance. Donc, quand Dieu dit à cette jeune fille, Ézéchiel 16, « J'ai étendu sur toi mon manteau », c'est-à-dire « J'ai fait alliance avec toi ». Je t'ai décrété ma protection. Et alors, de cette fille qui n'avait aucun avenir, qui était jetée dans les champs, qui était vouée à la mort, le Seigneur a couvert son manteau, a fait alliance avec elle, et petit à petit, dans le texte, on ne va pas le lire maintenant, mais il est dit qu'elle l'a parée, il l'a parée d'or, de vêtements brodés, de pierres précieuses, il a mis une couronne sur sa tête. Voilà, celle qui n'avait aucun avenir, il en a fait une princesse. Et quand on a lu ce texte vendredi soir, le problème, vous savez, c'est la suite du texte. La suite du texte, Dieu reprend sa nation en disant « Mais tu as prostitué, tout ce que je t'ai donné, tu ne l'as pas gardé. Tu l'as laissé tomber, tu t'es laissé voler, tu t'es prostitué avec les autres nations. Et moi qui ai fait de toi une princesse, eh bien tous ces habits, ta couronne et tout ça, tu l'as laissé aux nations. » Et alors, ça se termine comme ça, ce chapitre. C'est malheureux, quoi. C'est comme, elle n'est pas rentrée dans sa destinée. Mais quand on a lu ce texte, il y avait dans chaque nation, dans chaque pays, pour chacune de nos vies personnelles, il y a un plan de destruction de l'ennemi, mais il y a aussi un plan de rédemption. Et il y a un plan de rédemption pour notre pays, pour notre région, pour notre famille, pour notre vie. Et ça, c'est le plan de rédemption de Dieu qui veut étendre son manteau sur toi, sur moi, sur nos familles, sur notre vie de nation aussi. Voyez donc le plan. Chacun d'entre nous, on a été fait à l'image de Dieu. Et le péché qui est venu dans le monde, cette révolte de l'homme qui dit « Moi, je veux faire tout seul », eh bien, ça fait que cette image a été un peu tordue, quoi. Mais elle est encore là. Elle est encore là. Et alors, à cause de cette image qui est encore là, toute nation reflète encore quelque chose de l'image de Dieu. Parce qu'une nation, les nations, c'est Dieu qui les a voulues. Et chaque nation reflète quelque chose de son caractère à lui, de son cœur à lui. Vous savez, c'est pas quand Jésus nous dit « Église, fais de toutes les nations des disciples », ça veut dire qu'il veut restaurer l'image de Dieu dans chacune des nations. Et chacune de ces nations a quelque chose d'une couleur, a quelque chose d'un parfum de Christ. Le rôle de l'Église, entre autres choses, c'est de faire des nations des disciples, c'est-à-dire de comprendre quelle est la destinée de cette nation, quelle est l'image de Dieu dans ce pays, et puis de toucher cette nation pour qu'elle retrouve son image, qu'elle retrouve sa vocation. Ça, c'est le rôle de l'Église. Ce n'est pas seulement la conversion d'un individu après un autre individu. Bien sûr que beaucoup de choses commencent par là. Mais Jésus a dit, vous ferez des nations, des disciples, baptisez-les. Quand nous, évangéliques, on parle du baptême, on parle, dans notre tête, c'est le baptême des individus, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a fait de baptisez-les? Dans le texte de Matthieu, il est dit, vous baptiserez les nations. C'est quand même étonnant, ces histoires. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a réduit notre évangile à quelque chose d'individuel, de purement individuel. Et c'est ce que j'aimerais vous montrer par ce message, c'est que ça va beaucoup plus que ça. Tu as été sauvé pour bien plus que toi-même. Tu as été racheté pour bien plus que toi-même. Et de ton obéissance va dépendre la vie de beaucoup, de beaucoup. Regardez, juste pour appuyer bibliquement ça, par exemple la Syrie. La Syrie, en un seul mot, hein, c'était une de ces puissances ennemies d'Israël. D'ailleurs, ils étaient réputés comme étant des gens extrêmement sanguinaires, bien plus que Babylone et tout ça. La Syrie, Dieu l'appelle « œuvre de mes mains », Ésaïe 19, 25. L'œuvre de ce pays qui... Mais alors, comment Dieu peut l'appeler comme ça ?« œuvre de mes mains ». Mais alors, en même temps, Dieu lui dit « tu es un instrument de ma fureur, tu as un cœur orgueilleux ». Donc, chaque nation, il y a une parole de Dieu... Et puis un travail de l'ennemi qui a tordu l'image. Babylone, comment Dieu l'appelle ? Ornement des royaumes, Ésaïe 13, 19. Astre brillant, fils de l'aurore, Ésaïe 14. Et pourtant Babylone, c'est quand même une nation qui a fait tellement de mal à Israël. Parce qu'en même temps, Dieu dit, Ézéchiel 30, Babylone le plus violent parmi les nations. Donc, voyez, chaque fois pour chaque pays, Israël... Mon premier-né, mon héritage, mon serviteur, mon bien-aimé. Mais d'autres passages disent, celui qui n'est pas aimé, Osée 1, 6. Mon peuple, Osée, mais dans le même livre d'Osée, il est dit, tu n'es pas mon peuple. Ensuite, il est dit, Olivier Verdoyant, et puis il est dit, peuple, génération rebelle. Vous voyez, il y a le blanc et le noir, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Chaque nation est créée par Dieu et voulue par Dieu. Chaque individu est créé par Dieu, voulu par Dieu. Mais l'image de Dieu originelle a été pervertie par le péché. Et c'est pour ça que le rôle de l'Église, on va le voir par le texte, par le livre d'Esther ce matin, on l'a déjà vu ensemble, mais dans d'autres aspects, on va voir que le rôle de l'Église, comme Esther, c'est de toucher la nation et de libérer la nation de l'oppression de l'ennemi afin qu'elle retrouve sa vocation de reine, afin qu'elle retrouve sa vocation de princesse, de faire alliance, baptiser la nation d'un baptême qui est l'eau qui donne la vie. Et le baptême, ça nous parle de mort aussi. Mort à l'idolâtrie, mais vie pour le Seigneur. C'est vraiment ça le principe. Alors, on va voir ce livre d'Esther, rappel de l'histoire très rapidement. J'espère que vous le connaissez, mais juste, le livre se situe vers 483 avant Jésus-Christ, temps du roi Assuérus. Le peuple juif vit en exil. Et la troisième année du règne d'Assuérus, il est dit que le roi a fait un grand festin. Alors les festins à l'époque, c'était 6 mois de festin. Qu'est-ce qui se mettait ? 6 mois de festin. Hein ? Alors 6 mois au cours desquels il a confié tous les grands du royaume. Et à la fin, il a fait 7 jours. Et là, 7 jours, c'est pour tout le peuple. Alors 7 jours de fiesta, voilà, c'était vraiment... Alors là, au bout des 7 jours, il veut inviter sa femme, Vashti. Il va dire, voilà, je vais montrer à tout le monde comment tu es belle. Et puis elle a dit, non, mais moi, je ne vais pas danser là pour tous ces gens-là. Hein. Donc elle a refusé de venir et vous savez, donc elle était répudiée. N'ayant plus de reine, le roi va chercher, rassembler toutes les plus belles jeunes filles du royaume. Et Esther, cette jeune juive en exil, Elle est amenée dans le palais du roi et puis donc elle va se préparer pendant un an. On verra en fait que c'est 4 ans. Bon, pour rencontrer le roi, et le roi la connaît, l'aime plus que toutes les autres, la choisit comme reine. Mardoché, le père adoptif d'Esther, va continuer à veiller sur elle, va déjouer un complot contre le roi. Plus tard, le roi va donner le pouvoir au méchant Aman. Et celui-ci est vraiment avide du pouvoir, jaloux de Mardoché, qui ne se prosterne pas devant lui. Et il décide de faire payer tout le peuple juif de cette audace de Mardoché de ne pas se prosterner devant lui. Il va décréter la destruction des juifs. Et Mardoché, à connaissance de ce décret, va prévenir Esther. Et Esther va demander faveur au roi en risquant sa vie. Et grâce au roi, Aman est pendu au bois, Mardoché prend sa place, le peuple juif est sauvé. Donc ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît, que je rappelle, mais il y a 2 niveaux dans cette histoire. Il y a le premier niveau, c'est le niveau historique, c'est-à-dire c'est une réelle histoire qui s'est vraiment passée. Ce n'est pas des contes de fées, hein, c'est une réelle histoire, une véritable Esther qui s'est passée là. Mais il y a aussi une lecture spirituelle de ce texte, et ce texte nous parle de la vocation de l'Église. Le texte, le livre d'Esther, nous parle de la vocation de l'Église. C'est l'appel de tous les chrétiens en position d'épouse aux côtés de Jésus. Parce que Jésus, l'Église, est comparée à une princesse, à l'épouse du Christ. Et il est dit dans de nombreux passages qu'elle est destinée à régner avec lui. Donc Esther nous parle de la vocation de l'Église. Voyez, nous avons comme position, quand nous sommes à Jésus-Christ, comme nous sommes convertis à lui, on lui a donné son cœur, il y a ce mystère qu'on fait partie de son épouse et qu'on devient une reine et une princesse à ses côtés. Alors on dira, mais tout ça c'est super. Mais voyez, il y a quand même un paradoxe qu'on voit dans la vie d'Esther et dans notre vie. D'un côté, on sait que Dieu est souverain. Le livre d'Esther, il n'y a jamais le mot de Dieu dans ce livre-là. Et pourtant, on se rend compte que Dieu, il maîtrise tous les événements du livre d'Esther. C'est extraordinaire, même dans tous les détails. Et en même temps, il y a le libre choix d'Esther d'obéir ou pas. Donc vous voyez, en même temps, Dieu, il dirige tout. Et en même temps, Esther est libre d'obéir ou pas. Et ça, il ne faut pas trop le réfléchir avec notre tête, ça. C'est un peu, c'est paradoxal, mais c'est la liberté du chrétien. En même temps, Dieu y sait, et en même temps, tu es libre. Ça nous dépasse. C'est un des grands mystères de Dieu, mais Dieu est absolument souverain. Et en même temps, nous sommes absolument libres. Alors, Esther est devenue reine, pourquoi ? Grâce à la souveraineté de Dieu, elle ne l'a pas cherchée. Elle ne l'a pas voulu. Est-ce que tu as cherché à devenir une princesse en appartenant au Seigneur ? Probablement pas, mais tu l'es. C'est ce que la Bible me dit. Alors bon, Dieu avait besoin d'elle en tant que position, dans sa position de reine. Il a manifesté sa souveraineté comme ça. Mais en même temps, le fait qu'Esther soit reine, ça ne suffisait pas à sauver le peuple d'Israël. Le fait que nous soyons partis prenante de l'Église de Jésus, ça ne suffit pas à sauver notre nation. Ça, c'est étonnant. Nous faisons partie de l'Église du Seigneur, mais ça ne suffit pas. Il a fallu qu'Esther obéisse. Il a fallu qu'elle prenne sur elle. Donc, voyez, les 2 aspects, souveraineté de Dieu et l'importance de nos choix, l'exercice de notre responsabilité, c'est absolument déterminant, déterminant. Alors on voit que dans la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait dans le livre d'Esther ? Il a fait que le roi a eu des insomnies. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. La bonne nuit, justement la nuit où il fallait, il n'a pas pu dormir. Alors il a lu dans le livre des chroniques, je ne sais pas si vous n'arrivez pas à dormir, ce que vous lisez. Ce qui peut aider, c'est des statuts d'association, par exemple. Ce qui peut aider à dormir, c'est, vous voyez, des trucs comme ça, des fiches techniques. Mais alors, lui, il a lu le livre des chroniques et il a lu le bon passage, encore une fois, manifestation de la souveraineté de Dieu. Il a lu exactement ce passage qui lui rappelait qu'un jour, un certain Mardoché avait déjoué un complot. Alors du coup, il l'a fait venir. Là, c'était la souveraineté de Dieu. Alors ça, personne ne le maîtrise, ça. personne ne maîtrise. C'est Dieu qui agit souverainement. Voyez. Mais donc, mais ça ne suffit pas. Voyez. Il a fallu que Esther, elle agisse, elle obéisse, elle marche. Hein. Alors, j'ai noté ici, j'essaye de ne pas perdre le fil. Esther n'était pas reine parce qu'elle était belle. S'il y en a qui se trouvent moches au milieu de nous, Dieu ne choisit pas à cause de ça. Il y en a qui se trouvent minables. Il y a des spécialistes. Hein. Je suis minable, je suis petit, je suis pécheur. Mais oui, tu es pécheur, mais tu es gracié. Hein. Il faut arrêter maintenant. Tu es beau. Bon, eh bien, Dieu ne l'a pas choisi parce qu'elle est belle. Dieu l'a choisi pas parce qu'elle a des souliers dorés, mais Dieu l'a choisi parce que Christ, parce que Dieu l'a décrété ainsi. Il en avait besoin, pourquoi ? Pour sauver une nation. Dieu ne nous choisit pas pour nous sauver nous-mêmes tout seul. Ah, il est malheureux. Il est tellement triste. Je vais le sauver. Et toi, tu es là. Dieu te console, Dieu te guérit. Et puis, tu ne vois pas plus loin. Mais pourquoi Dieu t'a choisi ? Parce qu'il veut sauver une nation. Et il a choisi Esther parce qu'il veut sauver cette nation d'Israël. Voyez. Alors, la reine d'Esther était reine sur un royaume humain, terrestre, provisoire. Mais nous devons régner sur un royaume éternel. Vous vous rendez compte un peu ? Alors, il y a certains passages biblique que vous connaissez, mais j'aimerais juste les souligner. Lorsqu'il est dit dans Éphésiens 2, 11 à 19, on ne va pas tout lire, mais il est dit, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus, vous avez été jadis éloigné, mais maintenant vous avez été rapproché par le sang de Jésus. Et plus loin, il est dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Il a fait de vous, vous n'êtes plus des étrangers, nous dit la parole de Dieu, vous, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, c'est ce que nous sommes. C'est ce que tu es. 1 Pierre 2, 9-10, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi ? Pour que tu sois heureux, pas seulement. Un peuple acquis afin que tu annonces les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà ce que notre roi veut faire de sa reine. Et dans Apocalypse, il est dit, chapitre 5, versets 9 et 10, il est dit, pourquoi tu as été immolé, Seigneur ? Parce que tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et la suite, et ils régneront sur la terre. Et ils régneront sur la terre. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi il est mort. C'est pas seulement pour sauver des individus, mais c'est pour sauver des nations. C'est pour que son Église, de son côté percée, elle est née. Elle est née, cette Église, et tu en fais partie. Et de cette Église, le Seigneur te dit, je veux faire de toi quelqu'un qui va régner. Alors quand on voit l'histoire de Romains 8, 17, nous, si nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Lorsqu'il est dit, si nous persévérons, de Timothée 2, 12, nous régnerons aussi avec lui. Et quand on lit cette histoire d'Esther, on dit, c'est une merveilleuse histoire. Mais attendez un peu, regardons un peu de plus près quelques éléments de cette histoire. On va voir qu'elle n'est pas si merveilleuse que ça, en tout cas dans sa première phase. Parfois, vous voyez, on se dit, mais moi c'est difficile, c'est trop difficile. Moi je ne peux pas regarder tout ce que je vis, c'est trop difficile. Tu crois que pour Esther c'était facile ? Pas de parents, exilée, sans avenir, un jour du jour au lendemain, prise de sa maison, mise dans un palais pour être une concubine. Elle ne devait jamais en sortir. Ses rêves de jeune fille, du jour au lendemain, sont tombés. C'était terminé. Tous ses rêves d'être aimée, d'avoir un mari, d'avoir des enfants un jour, c'était terminé. C'était pas marrant, ça. Et ça, c'était Esther. Et ça fait partie de la préparation d'Esther. Et trop souvent, quand on a des situations contraires, on s'arrête et on se dit, mais qu'est-ce qui fait Dieu ? Et si on pouvait voir que tout est préparation de Dieu pour nous apprendre à régner, que tout dans notre vie est sous son contrôle, même les choses les pires qui soient, on se dit, mais ce n'est pas possible, Seigneur, mais où est-ce que tu es ? Tu m'as laissé tomber ou quoi ? Est-ce que tu crois que Esther n'a pas eu cette impression ? Est-ce que tu crois que Joseph, dans sa prison, n'a pas eu cette impression ? Et pourtant, Joseph, il s'était vu en vision de régner. Mais je pense qu'il a gardé cette vision. Et il ne faut pas nous arrêter en cours de route. Il ne faut pas nous arrêter en cours de route. Voyez, Dieu n'a pas peur des solutions radicales. Il aurait pu dire, mais ça va faire de la peine à cette petite. On ne va pas lui faire de peine quand même. Voyez, il ne faut pas la secouer. On va y aller mollo. Mais la pression, le salut de la nation était tellement important qu'il a pris des solutions radicales. Est-ce que tu sais que le Seigneur, il prend des solutions radicales encore aujourd'hui ? Et dans notre vie, il prend des choses radicales. Et on se dit, mais Seigneur, mais t'es quand même, t'étais dur quand même. Mais vous croyez que y a pas, y a, l'appel de Dieu, ce cri qu'on entend de la terre, n'est pas quelque chose qui demande des solutions radicales ? Lorsqu'on se lance pour l'achat du bâtiment, pas pour l'achat, je dis, c'est une prophétie, je ne sais pas. Quand on se lance pour, quand on se lance pour ce bâtiment, tout le monde ici sait qu'on n'a pas les moyens. Tout le monde ici sait que nous sommes petits, faibles. Mais pourquoi nous prenons ce lieu ? Parce que nous croyons que c'est un moyen de Dieu de salut, de rédemption. C'est pour ça que nous y allons, c'est à cause de la vision qu'on prend des risques. Et Esther, vous voyez, cette Esther, elle a passé plusieurs années. Pourquoi ? Je dis plusieurs années parce qu'elle était capturée la troisième année du règne d'Assuérus. Elle a été couronnée reine la septième année. Donc ça a mis quatre ans. Quatre ans de préparation. Dans ces quatre ans, il y a eu une année particulière où elle a été préparée avec de l'huile, avec de la myrrhe, avec des aromates. Alors toutes les jeunes filles, c'est super ! Tu te rends compte ? Un an comme ça, maquillage, les cheveux, la poudre, la peau, ça schmeckte goutte. Et pendant un an, c'est ça, vous voyez. Alors tu t'es dit, mais ça, moi, je veux aussi, c'est super. Mais attends, regardons le texte. La myrrhe et l'huile, c'est exactement ce qu'on prenait pour embaumer les corps. Jésus a été embaumé avec de la myrrhe, etc. La myrrhe, c'était le symbole de la mort. En fait, elle a été ointe pour se préparer à mourir. Et Jésus, lorsqu'il a été oint, il a été oint pour être préparé pour mourir. L'onction de Dieu, vous savez, parfois on pense que cette onction, c'est un plus. Moi, j'aimerais te dire que c'est aussi un moins. Et quand Dieu nous oint, il y a aussi de la vie, bien sûr, mais Dieu ne donne pas sa vie là où il n'y a pas la mort. Et Dieu, il donne son onction là où il y a la mort. Nos propres rêves, nos propres histoires, nos propres conforts, nos propres trucs, quoi. Dieu dit, ça, c'est nécessaire que ça meure. Pas pour que ça reste mort, bien sûr que non, mais pour que lui, il nous donne ses projets, pour que lui, il nous donne sa vie, pour que lui, il nous donne son parfum. Et donc Esther, vous savez, elle est passée là, dans ce temps sûrement d'angoisse pendant ces années. Et alors, le roi l'a connue, vous savez, connue, ça veut dire, il l'a connue intimement, et il l'a aimée plus que les autres, et il lui a donné une couronne. Et j'aimerais rappeler ce qu'on a déjà dit ici, la couronne dans la Bible, c'est le signe de la sagesse. Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 1. Et la sagesse, elle est donnée à un peuple qui connaît intimement son Seigneur. La royauté, elle est pour ceux qui connaissent intimement leur Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à venir à lui, à mieux le connaître, à le scruter, à le chercher dans sa parole. Ce n'est pas dans les temps de culte qu'on peut faire ça. Ce n'est même pas dans les temps d'église où on est tous ensemble. Chercher le Seigneur, ça se fait seul. Chercher le Seigneur, ça se fait dans l'intimité de notre chambre. Chercher le Seigneur dans cette intimité, c'est là qu'on reçoit une couronne pour régner. Et Esther a reçu cette couronne, voyez, elle a reçu cette couronne de reine. Et on aurait pu dire, eh bien, il y a quelque chose qui va changer là chez elle. Elle a souffert, maintenant elle est reine, elle domine, mais elle est restée étonnamment soumise à Mardoché, comme on l'a déjà dit ici. Elle faisait que ce que Mardoché lui disait de faire. Elle aurait pu dire, écoute Mardoché, maintenant ça suffit, t'as vu ce qui est là-haut là ? Bon alors maintenant, c'est moi la grande, maintenant tu vas obéir quoi. Ben non, elle est restée soumise. Cet esprit de soumission, c'est la clé de la vraie autorité. Et une église soumise à son Seigneur, c'est la clé de la véritable autorité. Et vous savez, le chemin de la soumission, ce n'est pas toujours un chemin facile. Ce n'est jamais un chemin facile. Et nous sommes tous ici, moi le premier, où on doit combattre contre notre chair, etc. Mais le Seigneur nous dit, moi, c'est ça que je veux pour toi. Et donc, ce chemin de soumission est nécessaire. Et vous savez, la soumission, elle est testée justement quand on n'a pas envie. Quand on a envie, c'est facile. Hein ? Mais quand on n'a pas envie, c'est là qu'on voit. C'est là qu'on voit. Alors, cette soumission, c'est un chemin d'autorité pour recevoir l'autorité de Dieu. Alors vous savez, Esther, ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été élue pour sauver ce peuple, mais il est dit qu'elle avait l'affection de tout le monde. Vous savez, quand quelqu'un souffre, il y a deux choses. Hein. Ou tu deviens amer, et alors tu deviens invivable. Ça devient ronchon, amer, colérique, tout ça, on n'en peut plus. Quoi. Ou alors, l'épreuve te fait lâcher, et tu deviens tout doux, tout gentil. Et ta femme a dit, mais qu'est-ce que c'est super là, il a changé, j'ai un mari brisé, hein, ou alors j'ai une femme brisée. Mais ça, c'est un bon parfum ça. Et Esther, eh bien l'épreuve, toutes ces années, tous ces rêves de jeune fille foutue, ça ne l'a pas rendue amère. Au contraire, les gens, ils l'aimaient, ils aimaient son contact, ils aimaient être avec elle, etc. Ça, c'est super. Elle a reçu la faveur, la Bible nous dit, la faveur de tous. Eh bien, ça, c'est le signe d'une femme qui a plié. Vous savez, parfois, il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas dans notre vie. On n'a pas choisi de vivre ce qu'on vit. Mais parfois, il faut savoir plier et savoir se dire, Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain, je reconnais, je loue ton Dieu, même dans cette situation. Et là, il y a un parfum qui sort, qui est de bonne odeur au Seigneur. Et ça, c'est nécessaire. Et Esther, elle avait la faveur de tous, voyez. Alors, Jésus fait de nous une reine à ses côtés. L'enjeu de nos vies, ce n'est pas pour nous. Il y a trop souvent, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voyez, ça, ben, c'est normal de se poser la question, ce n'est pas méchant, ce n'est pas un gros péché. Mais ça le devient si c'est la seule question que tu as. Qu'est-ce que je vais faire de mon ministère ? Mais Dieu, l'enjeu de Dieu, c'est la nation, c'est les nations. Voyez, il voit plus grand que nous. Et si tu as choisi, c'est pour un projet plus grand que toi-même. Ça nous dépasse. Et c'est dans ce sens-là qu'on a besoin d'avoir un cœur élargi. Christ a lié notre destin à celui des autres. Il a lié sa vie à l'humanité en venant donner sa vie. Eh bien, Esther, il y a eu cette phase où il l'a choisie parce que le destin d'une nation dépendait de son obéissance. Alors Esther fait face à ce défi du décret. Il y a un décret contre le peuple juif. Et à ce moment, elle a dû choisir ou se taire ou parler, se cacher ou risquer sa vie. Il est intéressant de noter que le mot Esther veut dire étymologiquement, alors étoile bien sûr, hein, mais ça veut dire aussi en la cachée, celle qui est cachée. Et l'Église est celle qui est cachée, mais elle n'est pas appelée à demeurer cachée. Elle est appelée à se laisser illuminer par la gloire de Dieu. Elle est appelée à sortir de sa cachette, voyez ? Pour qu'elle devienne vraiment cette Esther qui est une étoile. Donc l'étymologie de ce mot, ça veut dire à la fois la cachée, et ça veut dire aussi l'étoile. Et en fait, ce n'est pas contradictoire. Mais il y a une phase de la vie qui est la phase de préparation. Dieu fait dans les choses cachées, et il y a une phase de lancement, et c'est Esther qui est préparée. Le mouvement des écoles chrétiennes prépare les Esther. Et c'est dans ce sens-là que cette couronne, cette sagesse que l'on veut transmettre, c'est appelé à couronner cette génération pour qu'elle puisse régner. Et qu'elle ne reçoive pas une sagesse qui vient d'en bas, mais une sagesse qui vient d'en haut. Et c'est ça la couronne. Les nations ne vont pas être changées par des hommes qui sont seulement remplis de l'amour de Dieu. les nations seront changées par des hommes et des femmes qui auront l'amour et la sagesse de Dieu, c'est-à-dire cette couronne sur la tête. Alors Esther, voyez, face aux décrets, il y a des décrets sur notre nation, on le sait tous, il y a des décrets contre notre pays, des décrets de l'ennemi, décrets contre les couples. Ce matin encore, je téléphonais à quelqu'un qui est en plein divorce, et sa femme était soi-disant une chrétienne qui a dérapé. Et cet homme a toujours vu l'évangile au travers d'un témoignage calamiteux de quelqu'un qui voyait des démons partout, de quelqu'un qui voulait les chasser de partout. Et dès que son mari l'ouvrait, elle voulait lui chasser des choses, le pauvre. Et maintenant, c'est le couple qui part en lambeaux, quoi. Et je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais voilà, on est avec vous. On est avec vous. Et cet homme, je ne vais pas dire son nom, mais c'est vraiment un homme qu'il faut soutenir. L'Église, parfois, a donné un tel témoignage du Seigneur qu'on est honteux. Et ce n'est pas étonnant que les gens se soient éloignés. Alors, par rapport à ces décrets de destruction, par rapport aux coups, par rapport aux enfants, par rapport à toutes choses, qu'est-ce qu'on a comme réaction ? Soit la résignation, on se sent impuissant, c'est trop. Soit la colère, c'est leur faute, regarde un peu encore ce qu'ils ont fait. C'est la faute des médecins qui avortent. C'est la faute des hommes qui convoitent les femmes. C'est la faute des femmes qui convoitent les hommes, etc. Et on accuse, voyez, on accuse. Ou alors c'est l'indifférence. Écoutez, moi, j'ai déjà assez à faire avec moi-même. Hein. Alors, la nation, tout ça, hein, voilà. Ça, combien de fois j'ai entendu ça, hein. Vous voyez, c'est incroyable. Bon, je pense que c'est une étape normale. Hein. Le petit bébé, là, il est dans son parc, là, et puis il joue avec ses petites voitures. Il ne faut pas lui parler des nations. Hein. Voilà. Alors, il est au lait, au biberon, et c'est important comme étape, le biberon. C'est vraiment important, il ne faut pas louper l'étape. Hein. Mais il ne faut pas rester dans le parc. Hein. Il faut découvrir le monde. Hein. Et puis, il faut commencer à dominer sur ce monde, à prendre ta place. Voilà, tes responsabilités. Et puis, il y a la dernière attitude, c'est rentrer dans une intercession, une prière active. Et ça, il y a beaucoup de choses qui commencent à se lever dans ce pays, vous voyez. Et je crois que j'aimerais donner l'exemple d'une église, par exemple, qui a commencé à se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et ils ont dit, ben voilà, on va lutter contre l'avortement, tout ça. Et ils avaient l'hôpital juste en face, où tous les gens, ils avortaient. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on... c'est aux États-Unis. Alors, ils se sont mis dans la rue, ils ont prié, tout ça. Et ils ont dit, à partir de ce moment-là, leur culte, c'était la panique. Parce qu'il y avait un esprit de mort sur l'assemblée entière. Et leur culte, qui était bien joyeux avant, tout le monde s'éclatait, tout ça, c'était sympa. Et après, c'est plus devenu sympa. C'était la galère. Il fallait... aller à contre-courant, il y avait de la vraie bataille. Des gens sont partis. Ils se sont dit, mais c'est plus marrant dans cette église. On ne s'éclate plus comme avant. Alors ils sont partis. Et ils étaient en train de mener un combat. Et et ensuite, Dieu leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à adopter ces enfants ? Et l'église a commencé à adopter des enfants qui, normalement, auraient dû être tués, etc. Et ensuite, pareil, ils ont eu la même réflexion pour les orphelins. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire ? On est si petit, on n'a pas d'argent, tout ça. Et puis quelqu'un a dit, ben tiens, moi j'ai une maison, je vais l'ouvrir. Et tac, c'est devenu une œuvre sociale, la mairie qui reconnaît, etc. Donc tout commence, si vous voulez, par le souci des autres. Et moi, je crois véritablement que ce qui est à côté, c'est la coquille que Dieu va remplir. Parce que il a déjà élargi nos cœurs. Alors Dieu a vu, il a vu ces cœurs qui sont là, vos cœurs. Il a dit, ça c'est des beaux cœurs. Ils veulent plus. Alors, je vais leur donner les outils pour ça. Et voilà l'outil que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a prévues. Alors, l'intercession. Et Esther, nous parle de l'intercession aussi. Alors, voyez, ce livre nous appelle à intercéder. Pourquoi ? Parce que, voyez, quand elle va vers le roi, elle risque sa vie. Et elle a été très effrayée, Esther 4:4. Elle a envoyé des vêtements à Mardoché. Quand Mardoché s'est mis devant le palais, il a crié, il s'est mis des vêtements sales, tout ça, les cendres sur lui, il a commencé à crier. Et elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait elle ? Mais qu'est-ce qu'il... Mardoché, chut ! Alors, la reine était très effrayée. Elle a envoyé des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, parce qu'il était dans un sac, imaginez, ça fait, c'est pas bien quand même, devant le palais du roi. Alors, elle était gênée, et parfois on est gêné, quand on entend des cris, et comme c'est arrivé là, où la célébration, il y a des cris d'intercession qui sont montés, c'est pas beau, c'est pas raisonnable, ça va pas quand même, on est des gens respectables, hein, et on aimerait étouffer un peu, mais il y a un cri qui monte, qu'on ne peut pas arrêter. Et Esther après, bien, chapitre 4, versets 13 à 16, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs, hein, parce que tu es dans la maison du roi. Ne crois pas que tu vas échapper parce que tu es de l'église du Seigneur. Hein, car si tu le fais maintenant, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther envoya dire à Mardoché, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, et puis j'entrerai chez le roi. Malgré la loi, si je dois périr, je périrai. » Toute la préparation d'Esther, toute sa vie, c'était pour ce moment-là. Dans nos vies, il y a des préparations pour un moment particulier. Ça peut être plusieurs, mais au moins un. Un moment qui est un choix radical. Et là, elle a fait ce choix. Il y avait, vous voyez, Esther a eu besoin de courage. Il y avait 11 mois entre le moment où elle a su que le décret était publié et le jour qui était prévu pour le massacre. 11 mois. Elle aurait pu attendre 11 mois. Mais non, tout de suite, elle est allée vers le roi. Et voyez, ça nous montre aussi, on voit chez elle une grande humilité. À 4 fois, elle va vers le roi. Elle lui dit, Esther répondit, « Voici ce que je demande, ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande, de satisfaire mon désir, que le roi revienne avec Aman au festin. » Chaque fois, elle dit ça, c'est comme un refrain. Esther 7.3, la reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, sauve mon peuple. » 3e fois, Esther 8.3.5, « Si le roi trouve bon, si j'ai trouvé grâce devant lui. » Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui arrive en disant, bon, t'as vu la couronne, maintenant je suis reine, donc fais ça, fais ça, fais ça. Parfois, attention comment on prie. Attention comment on prie. Esther, elle n'a pas usurpé une autorité quelconque. Elle est restée humble, humble devant ce roi. Si on intercède, c'est parce qu'on ne mérite rien, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est à cause de sa grâce qu'on peut prier. Et Vashti, elle a voulu profiter de sa position de reine et elle a méprisé le roi. Voyez, parfois, elle était tellement sûre d'être aimée, d'être la reine, que on méprise les ordres du roi. Voyez, et pourtant, c'est pas comme ça que ça marche. Nous, on se sait aimé de Dieu. Et le problème qui peut arriver, c'est qu'on est tellement bien dans cette grâce, on est aimé de toute façon, que du coup, on oublie que c'est un Dieu qui donne des ordres aussi. Voyez. Et si on méprise les ordres de Dieu, il y a comme une répudiation, c'est-à-dire Dieu ne peut pas nous utiliser. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous aime plus, mais il ne peut pas nous utiliser en tant que princesse. Donc attention à ne pas, vous voyez, baigner dans une sorte de confiance charnelle. De toute façon, Dieu, il m'aime et tout ça. Attention, Dieu est Dieu. Et alors, Vashti, c'est le modèle de la rébellion, de l'insoumission. Et Esther, elle, c'est le modèle de la soumission, c'est le modèle de la persévérance. Elle ne s'arrête pas à demander une fois, elle va demander plusieurs fois, plusieurs fois. Elle ne fait pas que prier, elle agit aussi. C'est l'intercession avec l'action. Elle va toujours, elle va de nouveau vers le roi, c'est 4 fois, c'est assez extraordinaire, c'est 4 fois où elle va vers lui. Alors voyez, cette histoire nous montre bien sûr le caractère d'Esther, nous montre la destinée de l'Église, le caractère de l'Église. Restant humble, elle est appelée à régner, comme Jésus. Parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé au-dessus de toute autorité. En tant qu'Église, on a besoin de rester dans avec ce cœur d'une Esther. Et s'il y a au milieu de nous des Esther, des individus en préparation, qui sont peut-être rejetés, qui se sentent à côté, eh bien dis-toi que le but, c'est le règne. Et donc, arrive à voir au-delà des difficultés actuelles que tu vis. Et cette mire, vous savez, Mardoché, le Talmud nous dit que c'est un mot composé de 2 mots qui veut dire Mardoché, mar, c'est mire, c'est la mire, et doché, ça veut dire entièrement, si vous voulez. Il était entièrement avec le parfum de la mire. Et Mardoché était entièrement donné pour le Seigneur, radical pour le Seigneur. Il a risqué sa vie bien plus qu'Esther, dès le départ. Il a eu cette vision d'une Esther, de la protéger, d'être un père pour elle. Et ça, je crois que c'est aussi, ça parle aussi du cœur de père que Dieu voudrait libérer dans son Église. Alors voyez, cette nation de France, créée à l'image de Dieu, comme chacun d'entre nous, elle a été tordue par le péché, brisée, par beaucoup de choses. Et le Seigneur, il lève son Église afin qu'elle soit un instrument de rachat, de bénédiction, de réconciliation pour tous les peuples, pour toutes les nations. Le Seigneur, il t'a choisi. C'est pas pour ton ministère, c'est pour la nation. C'est pour bien plus que toi. Et ton obéissance va déterminer le salut de beaucoup. Et Esther, c'est encore une fois, j'aimerais dire qu'elle travaille en coordination avec Mardoché, en coordination avec tous les Juifs. Parce que si Esther avait obéi toute seule, si les Juifs ne s'étaient pas postés, chapitre 7, 8, etc., pour détruire tous les ennemis, eh bien, il n'y aurait pas eu de salut. C'est une affaire du corps tout entier qui a fait que le pays a pu être nettoyé. Et là, on a quelque chose de, une image extraordinaire de que la place, il y a une place pour chacun dans ce travail-là. Alors que le Seigneur nous aide vraiment à voir notre pays, notre ville, notre région, notre vie comme étant choisie par Dieu pour être restaurée. Et Dieu commence par une restauration personnelle, mais ça c'est le début. Et là, sur ce début, il veut une restauration pour tout le reste et toute la nation. Voilà. Et ça, il y a une dimension tout à fait pratique d'action, mais aussi d'intercession, de persévérance, d'aller vers le roi jusqu'au bout, pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même si ça nous coûte quelque chose. Mais pour nous, on est bénis, parce que notre roi, on sait qu'on ne risque pas la mort en venant vers lui. Ça n'a rien à voir avec Esther de ce côté-là. On vient vers lui et on sait qu'il nous accueille. On sait qu'il nous accueille. Et c'est pour ça, dans les temps qui viennent, nos rencontres d'intercession, un vendredi, c'est un vendredi par mois, c'est pas énorme, mais voyez, prier pour les nations, et ça devient palpitant, parce qu'on sait que Dieu nous utilise et pour changer les choses, et que les donnes, elles changent. Je suis convaincu que les danses qu'il y avait avant dans cette discothèque, ça va être les danses pour l'éternel, et je peux vous assurer que le climat a commencé déjà à changer, mais une église qui danse dans la gloire de Dieu et qui va servir avec un cœur selon Dieu, ça va révolutionner la totalité de la région, j'en suis persuadé. Que ce laser qui a balayé la région à chaque fois qu'il y avait des fêtes pas possibles là-dessous, là le samedi soir, nous avons un laser bien supérieur qui est une lumière de Dieu pour éclairer ces ténèbres de notre pays. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple d'Esther, qui est l'exemple de l'Église que tu te lèves aujourd'hui et que tu te prépares dans la myrrhe avec de l'huile, avec des parfums, de la prière et de l'intercession. Mais pour ce moment crucial où nous brandirons la parole de Dieu, la parole d'autorité, tout en restant humble. Seigneur, merci pour cette église que tu lèves, pas seulement ici, mais partout dans notre pays, en Allemagne, dans cette région, en Suisse, en Belgique. Seigneur, nous bénissons ces nations et nous bénissons ton église, Seigneur. Et nous sommes tellement contents de faire partie de ce plan magnifique, Seigneur. Alors donne-nous le dégoût pour tout ce qui te dégoûte et donne-nous la passion pour tout ce qui te passionne. Au nom de Jésus. Amen.